votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation. Vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie.
Merci la vie, bien sûr, merci la vie.
Merci la vie, ouais.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie.
Chers amis auditeurs de Radio Cité, auditeurs et auditrices donc, je suis avec Monsieur Julien Parini, quand quelqu'un vous dit « merci la vie ». Qu'est-ce que ça évoque chez vous, Julien ?
Alors, « merci la vie », pour moi, c'est quelqu'un qui est reconnaissant peut-être de la place qu'elle lui permet d'occuper, de se positionner par rapport aux autres, des défis qu'elle lui permet d'accomplir et puis des accomplissements, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment une reconnaissance de pouvoir avancer dans sa propre vie et aussi de participer à l'accomplissement de la vie des autres.
Je pense que dans la vie courante, des fois, il y a une petite étincelle comme ça qui vous dit « waouh, merci la vie ».
Exactement. Moi, on parlera de drones aujourd'hui. C'est vrai que moi, je peux dire merci la vie parce que j'ai eu une opportunité il y a quelques années de par mes études en architecture du paysage de pouvoir essayer une fois de travailler avec les drones. Et donc j'ai pu saisir cette opportunité de monter une entreprise en fait de vol par drone à Genève qui m'a permis de développer vraiment tout un concept qui me tenait à cœur de par ma formation en architecture du paysage, donc en rapport avec la nature, en rapport avec justement l'énergie et la future approche du chantier en fait, c'est-à-dire de moderniser un petit peu cette approche qu'on a depuis des années mais qui grâce au drone peut complètement être révolutionnée et optimisée, on en parlera je pense plus longuement après, mais donc pour moi ce genre de petites étincelles là vraiment merci la vie parce que c'est vraiment des opportunités qu'elle nous offre et puis que dont on peut que être reconnaissant.
Avant de parler de drone encore, vous avez choisi un métier qui est très proche de la nature. C'est comment on redessine, on dompte, qu'est-ce qu'on fait quand on est de votre métier ?
C'est surtout, je pense, appréhender un lieu, la vraie base en fait de ce métier, c'est-à-dire que c'est de savoir s'inspirer du paysage, parce qu'on sait tous que le paysage, en fait, tout est paysage, mais en fait, il faut juste savoir articuler les choses et réussir à justement les transcrire pour les magnifier en fait par une intervention qui n'a pas tout le temps besoin d'être énormissime, hein, c'est-à-dire que des fois, le paysage est là, mais justement par quelques phénomènes où la civilisation a peut-être perdu cette accroche au paysage, au territoire qui l'entoure, par une urbanisation, par les aléas du temps, en fait. Et donc moi, j'aime bien, en fait, quand je travaille, me dire que c'est peut-être une manière de retrouver, en fait, les traces du passé, ou en tout cas essayer de se raccrocher à un paysage qui a été là avant nous, quoi.
Un paysage avant nous. J'aimerais bien avoir votre avis, parce que très longtemps à Genève, le gazon était tondu quasiment à l'anglaise dans les parcs, les jardins. Maintenant, on retrouve des endroits en friche quasiment, avec un tas de belles fleurs et tout. Vous pensez quoi de cette nouvelle façon d'aborder le paysage ?
Alors, c'est quelque chose qu'on a beaucoup étudié, notamment à l'école que j'ai faite. Donc, c'est l'EPIA à Genève qui est une des seules formations en architecture du paysage qu'on puisse faire en Suisse. Et donc c'est le principe de l'entretien différencié qui a été pas mal développé, notamment à Lausanne où ils sont extrêmement perfectionnés là-dedans depuis de nombreuses années. C'est super bien quand on veut parler de nature en ville et quand on veut parler de biodiversité en ville parce que justement ça nous permet de faire des corridors biologiques en fait. On peut vraiment parler de corridors biologiques. On sait que Genève a des pénétrantes de verdure assez importantes à certains points qui ont été définis sur des plans. Et donc ces véritables corridors biologiques peuvent trouver des sortes de réservoirs urbains grâce à ces prairies qui sont fauchées de manière différenciée ou en tout cas en échelonnant les tondes de manière à ce que justement les insectes ne soient pas totalement brusqués ou malheureusement totalement soient broyés en fait par les tondeuses parce que c'est vrai que c'est quand même un acte un peu fort en fait la tondeuse.
Je rebondis tout de suite sur le mot broyé qui pour un paysan est quelque chose d'horrible. Si au moment où il est en train de moissonner, eh bien, il se rend compte que, bien sûr, sans le faire exprès, eh bien, il y a un faon ou un autre animal sauvage qui s'est fait prendre là-dedans. Et c'est à ce sujet-là, justement, que j'avais vraiment envie de vous interroger. Parce que ça sert aussi à ça, un drone, à protéger des animaux.
Donc, avec ma société de drones, on a été approché il y a de ça. Donc, c'est la deuxième saison qu'on l'a fait cette année. On a été approché pour permettre, avant la fauche, de passer sur les parcelles de prairies, entre le mois de mai et le mois de juin, qui est la période de reproduction donc, des chevreuils principalement. Et donc, grâce à des outils qu'on a sous nos drones, notamment une grosse caméra thermique, on peut passer avant les paysans qui viendront faire leur foin et repérer les fangs pour ensuite les marquer afin que qu'il n'y ait pas d'interaction fâcheuse entre la faucheuse et ses fangs. Parce que c'est vrai que c'est donc avec l'expérience et que j'ai pu parler avec beaucoup d'agriculteurs, c'est quelque chose de très choquant en fait et qui arrive. On n'en parle pas beaucoup, mais ça arrive extrêmement souvent. Il y a des centaines de fangs qui sont broyés par année en Suisse. Et donc, avec cette intervention que plusieurs cantons sont en train de démocratiser, vraiment, c'est quelque chose qui prend vraiment de l'ampleur. Et bien, on arrive à limiter, ou en tout cas, vraiment limiter ce nombre de fangs fauchés. Et je pense que le message, c'est un message assez important, c'est justement, si les agriculteurs nous écoutent, c'est que c'est un service gratuit. Qui est financé par une fondation, en fait, la fondation des fonds à Genève, mais ça peut être au canton de Vaud également, il y a la fondation des fonds au canton de Vaud. Et donc, il suffit juste qu'ils nous appellent la veille de leur fauche, c'est juste un petit coup de téléphone, et nous sommes là le matin, avant la fauche, on s'adapte à leurs horaires, il n'y a pas de problème, on peut commencer à 4h du matin des fois, c'est même un plaisir de le faire. Et on vient, on reste en contact avec eux, et on peut leur dire, en fait, attention, il y a un fang, il a bougé, ou attention, il y a un fang qu'on a protégé sur votre champ. C'est vraiment quelque chose de gratuit et d'ouvert à tout le monde.
Alors, cette année, il y a combien de fangs qui peuvent dire merci la vie ?
Alors, à Genève, des fangs qui peuvent dire merci la vie. Moi, je suis responsable d'un des secteurs, parce que Genève est séparée en trois secteurs, parce que nous sommes trois pilotes responsables, en fait, de cette opération à Genève. Moi, je sais que sur ma zone, il y en a 15 qui ont été sauvés, donc dans tout le secteur sud-ouest de Genève. Mais je pense qu'on doit arriver à peu près, si on est à trois secteurs, je pense qu'on est à peu près à 45 fonds, ce qui est déjà un nombre assez important pour Genève. Je note quand même que je pense que le concept mériterait d'être encore poussé, parce qu'on n'est pas appelé par beaucoup de paysans différents. En fait, la plupart de ces fonds ont été trouvés sur des paysans déjà habitués au concept et qui nous ont rappelé depuis l'année passée. Et je pense qu'on pourrait nettement augmenter les chiffres si les agriculteurs faisaient la démarche de nous appeler.
Est-ce que vous avez été en contact avec l'Office de promotion de l'agriculture de Genève, l'OPAGE ?
Je n'ai pas été personnellement en contact avec l'OPAGE. Je sais que la présidente de cette fondation, Mme Anne Munzinger, a eu pas mal de contacts avec notamment l'OCAN, tous les gardes-faunes. Qui nous accompagnent des fois même pendant ces opérations, parce que c'est vrai que ils sont totalement concernés par cette opération, au même titre que c'est totalement ouvert en fait. On a eu des agriculteurs qui sont venus nous accompagner, on a eu une personne de la tour de contrôle de Genève qui voulait voir un petit peu comment ça se passait, donc c'est vraiment extrêmement ouvert. Mais l'OPAGE, on les a pas encore eu. Je sais qu'Agri Genève sponsorise l'opération et la porte vraiment dans les médias et nous permet, grâce à son réseau, de vraiment élargir notre force de frappe, on va dire. Mais l'OCAN aussi, qui nous donne des autorisations pour voler dans les réserves naturelles, qu'on remercie beaucoup, parce que c'est vrai que sans eux, sans cette autorisation, la loi nous empêcherait de le faire.
Radio Cité, nos auditrices et auditeurs le savent déjà, on est très sensible aux objectifs du développement durable. Et là, vous venez d'apporter un point qui est directement lié à ces ODD. Mais il y a un autre point sur lequel vous travaillez de façon positive, c'est au niveau des déperditions thermiques. Vous nous en parlez un petit peu ?
Donc toujours avec cette caméra thermique, qui est l'outil un peu magique qu'on possède chez nous, c'est qu'en fait, en hiver, parce que c'est quelque chose qu'on peut que faire en hiver, parce qu'il faut que le bâtiment soit chauffé, et que la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur soit assez importante pour qu'elle puisse être vraiment marquable afin d'avoir une efficience de la technique. Donc en hiver, on peut passer sur des villas individuelles, sur des immeubles. On en a fait pratiquement 20 cet hiver-là, afin de justement pouvoir cibler les éventuelles déperditions thermiques. Donc ce seraient des défauts d'isolation, par exemple une tuile cassée, un problème d'étanchéité même, hein, c'est-à-dire qu'on peut même voir les infiltrations d'eau dans une façade, dans un toit. Et donc grâce à la caméra thermique, en 30 minutes de vol maximum, je pense qu'on n'a jamais fait vraiment plus, on arrive à faire un bilan complet des quatre façades et de la toiture d'un bâtiment. Et je pense que c'est extrêmement important de noter que c'est très rapide, mais surtout de noter que c'est justement quelque chose qu'on peut faire en fait depuis le sol, et on peut accéder à la toiture. Donc ça évite déjà à quelqu'un de monter sur une charpente en hiver qui est relativement glissante, mais aussi ça nous permet de fournir un rapport complet et vraiment extrêmement précis. C'est les mêmes outils que les experts en... Voilà, c'est un outil d'expert en thermographie ou en expert justement dans le génie du bâtiment, quoi. Donc vraiment, on arrive à mettre sous un drone un outil de pointe qui nous permet vraiment, au même titre que les fans, mais de cibler le tout petit, quoi. C'est-à-dire qu'il suffit pas que il faut pas qu'il y ait une énorme fuite, une énorme déperdition thermique dans le bâtiment. Une toute petite chose peut déjà faire économiser énormément d'argent si on intervient dessus, mais peut être vraiment ciblée avec le drone.
C'est vrai qu'il ne suffit pas d'une très grosse aiguille pour arriver à éclater un ballon, hein.
Exactement, non, mais c'est vraiment ça. C'est assez fou. Je sais qu'il y a eu certaines conventions ou en tout cas certains documents qui sont sortis au niveau de la ville de Genève qui encourageaient justement les Genevois et Genevoises à optimiser d'un point de vue thermique les bâtiments. Je sais que nous, on a fait la démarche avec certaines communes genevoises de les approcher pour savoir si ça les intéressait d'optimiser un petit peu leur parc de bâtiments en proposant à leurs habitants un passage de drone à la période souhaitée pour justement vraiment avoir une efficience thermique. Je trouve que c'est vraiment important. Et j'avais entendu différentes interviews cet l'hiver passé que j'ai trouvé extrêmement intéressante, qui disait que c'est là-dessus qu'on peut agir rapidement, en fait. C'est-à-dire que c'est pas sur... Enfin, le trafic, c'est un sujet d'actualité. Je suis totalement ouvert, à ces nouvelles façons d'aborder la mobilité. Mais je pense que la vraie solution, en fait, et la solution rapide et la plus rapidement facile à mettre en place, eh bien, c'est justement d'optimiser le parc de bâtiments et les isolations.
Afin d'optimiser, à l'intention de nos auditrices et auditeurs qui peuvent être intéressés par votre démarche, vous avez, je pense, un site internet ?
Alors oui, donc la société que nous avons montée, on est 3 associés. Donc le site, tout simplement, c'est dronegva.ch. Vous pourrez trouver un tas d'informations, tout ce qu'on peut faire avec un drone, parce que, bien sûr, les liens avec le développement durable ne s'arrêtent pas juste à la thermographie, c'est-à-dire qu'on a énormément de choses, toujours avec l'agriculture, avec des caméras multispectrales qui permettent de, par un passage de drone, cibler les endroits qui pourraient être endommagés ou en tout cas moins arrosés, ou en tout cas les endroits d'une culture qui serait moins efficient, et cibler les interventions pour éviter d'appliquer un produit phytosanitaire, par exemple, sur l'ensemble d'une parcelle, ou en tout cas de pouvoir amener un engrais peut-être sur une zone ciblée, quoi. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir voler et puis le fait de pouvoir justement changer d'optique, en fait, c'est vraiment ça. Et ben ça permet vraiment d'ouvrir un spectre énorme d'interventions. Je sais que certaines personnes traitent avec des drones à Genève. Nous, on ne le fait pas, mais je sais que les vignes commencent à être traitées à Genève par des drones. C'est un moindre mal, ouais, c'est ça, c'est un moindre mal. Mais c'est vrai que quand on regarde sur le papier les quantités de produits, on va pas dire économiser, mais en gros les quantités de produits qui ne sont pas déversées alors qu'elles l'étaient avant, c'est invraisemblable. C'est une économie énorme et on se dit et pour le même résultat. Donc on se dit que c'était vraiment du bassinage massif avant.
Donc voilà un autre secteur d'activité dont je n'avais pas vraiment toutes les informations. Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui sont dans vos rêves, dans votre imagination.
On peut faire des modélisations 3D extrêmement précises, c'est-à-dire d'un point de centimétrique, hein, d'un terrain, d'un bâtiment, etc. Et donc j'ose espérer que dans l'avenir, cette technologie sera très utilisée, notamment pour la gestion des déblais et des remblais. Moi, c'était quelque chose qu'on a beaucoup travaillé quand j'étais à l'école. Maintenant, je travaille à l'université à mi-temps en urbanisme. Et c'est vrai que c'est assez un thème d'actualité, justement, la gestion des déblais et des remblais. Parce que, justement, c'est des camions qui partent et des camions qui reviennent. Et donc toujours dans cette politique de mobilité, c'est vrai que si on peut agir assez rapidement, c'est vrai que les camions qui partent et qui ramènent de la terre, alors que si on veut, on aurait pu, par un calcul un petit peu en amont dans le processus de projet, peut-être stocker les matériaux ou en tout cas essayer de les revaloriser directement sur site, ça permettrait justement d'éviter tous ces charriements de matériaux pas nécessaires, quoi.
Eh bien, il y a du pain sur la planche. Julien Parini, je vous remercie vraiment du fond du cœur, et à votre entreprise aussi d'exister, parce que ce que vous faites est admirable, et j'espère que ça va faire du bruit, dans le sens où j'espère que cette technologie va trouver des applications de plus en plus dynamiques pour notre environnement. En tout cas, j'y crois profondément. Donc moi, je regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas avoir le même jouet à la maison. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, si vous avez de nouveaux projets qui vous semblent intéressants pour nos auditrices et nos auditeurs, ne manquez pas de nous appeler. Excellente fin de journée. Merci la vie.
Merci, bonne fin de journée. Merci la vie.